Bonjour à toutes et à tous. C'est chouette, vous êtes nombreux et nombreuses pour venir écouter Marc Lévy. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Je suis Amélie Cordonnier. Je suis ravie de poser ma casquette d'autrice et de coiffer celle de journaliste pour animer cette rencontre autour de votre nouveau roman, Marc, La Symphonie des Monstres. Oui, il est devant, vous le voyez.
Non.
C'est pas du tout celui-là. Ça commence bien. Il a paru le 17 octobre aux éditions Robert Laffont et il est très joliment illustré par les dessins de votre épouse Pauline Lévesque. Pauline Lévesque, est-ce qu'on a le livre? Non, personne ne l'apporte, c'est pas là. La dernière fois, Marc, que nous nous étions vus, c'est ça pimente un petit peu.
Vous n'avez pas le livre.
Parce qu'en fait, non, moi, comme gentil. Je suis handicapée, je n'ai pas apporté tous les livres.
Merci, madame. Je vous le rendrai après. Bien sûr. Vous aurez la première dédicace.
C'est merveilleux. En fait, c'est ça, c'est les joies de les rencontres.
Je suis sûr que mon éditeur vous en offrira un pour l'assistance que vous nous avez apportée.
J'apporte toujours les livres, mais vous voyez, comme je ne peux pas marcher et que je ne peux pas porter, c'est bien pour ça que je ne l'ai pas pris. Donc la dernière fois, Marc, que nous nous étions vus, c'était pour ce livre que nous venions d'enlever.
Oui.
C'était pour parler d'Éteignez tout et La vie s'allume, que beaucoup d'entre vous, je suis sûre, dans cette salle ont dévoré. Et dans ce livre lumineux qui ragaillardit le cœur, vous aviez eu envie de nous parler d'amour avec Jérémy et Adèle. Donc, lorsque j'ai ouvert La Symphonie des Monstres, je ne m'attendais donc pas, mais alors pas du tout, du tout, à ce que vous nous plongiez au cœur du conflit ukrainien, et encore moins à retrouver la bande de hackers de la série 9, puisque rien sur la couverture de ce 25e roman ne l'annonce. Alors, on est là pour ce... Moi, j'aime bien dire la vérité. Donc, la vérité, c'est que vous m'avez tout à fait emportée. De toute façon, je l'ai dit à Marc, je lui ai écrit un mail pour lui dire. À la fois révoltée et émue, et je suis sûre que vous aussi, dans cette salle, si vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu, le livre de Marc, dans un TGV ex-Paris. Et il a absolument fallu que je le termine en rentrant, alors que j'avais plein de bagages à défaire et que ce n'était pas du tout l'heure de lire. Je ne pouvais pas me coucher sans avoir lu la fin. Comme ça, si vous ne l'avez pas lu, bah, vous savez à quoi vous attendre. Vous mettez en scène, Marc, Véronica, une femme courageuse et ses deux enfants, Lilia et Valentin. J'aime beaucoup cette expression, vous dites trois âmes perdues au milieu d'un monde détruit. À travers eux, vous dépeignez ce que vous appelez la noirceur du chaos, son odeur, ses bruits, la peur commune qu'il répand dans ses vents, son silence et l'attente tout aussi terrifiant. Je vous cite parce que je trouvais que c'est beau, comme ça, ça nous plonge dans le texte. On sent en vous le besoin, l'urgence peut-être même d'écrire sur ce drame qui se déroule à cheval entre l'Ukraine et la Crimée. Voilà enfin ma première question, pardon. Comment est né ce 25e livre inspiré de faits réels, comme vous le précisez d'emblée dès la première page?
Bonjour à toutes et à tous, merci madame. Le livre est né, il est né de l'envie de parler de ce sujet. Il est né parce qu'il s'inscrivait quelque part dans la continuité du travail que j'avais mené en écrivant la trilogie des Neuf. Et du projet de la Russie, du projet de colonisation de l'Europe par la Russie. Et en fait, les hasards de la vie. À l'époque, je travaillais sur j'avais en tête d'écrire un livre sur un sujet qui touchait à l'enfance, mais qui était celui des enfants qui avaient été séparés de leurs parents dans les camps d'immigrés sous l'administration Trump, parce que c'est un autre scandale qui m'avait beaucoup touché, où des bébés avaient été arrachés à leur au bras de leur mère et de leur père, dans le cadre d'une politique de découragement. Enfin, c'était une atrocité. Et j'avais presque terminé mon enquête quand j'ai appris l'histoire de la déportation, enfin du kidnapping massif de ces enfants ukrainiens. Alors, je ne vous cache pas que ça ne m'arrangeait pas, parce que j'avais terminé mon travail d'un côté que je m'apprêtais à écrire, et en même temps il y a une question morale qui s'est posée, c'est de se dire est-ce que j'écris sur un sujet qui s'est déjà passé, pour lequel on ne peut plus rien faire, ou est-ce que je recommence à zéro le travail d'enquête et j'écris sur un sujet qui est en cours et où l'information peut servir à sensibiliser, à mobiliser. Et donc je suis passé à ce sujet là et je me suis mis à enquêter, à me documenter et à obtenir des informations. Et là, j'ai été absolument effaré par ce que je découvrais, c'est-à-dire par l'ampleur du projet. Au début, je pensais que c'était des initiatives locales. Et puis, j'ai découvert très vite qu'il s'agissait d'un projet de déportation. D'ailleurs, j'aime pas ce mot de déportation, parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'un kidnapping. parce que en fait les enfants ils sont kidnappés et ensuite on les envoie dans des camps, on leur lave le cerveau et puis on les donne à d'autres gens. Donc c'est vraiment c'est du trafic, c'est du kidnapping. Je trouve que là le mot déportation avec toute l'horreur qu'il contient est pas suffisant. Bref, donc voilà comment est née l'idée. Enfin, c'est pas vraiment une idée, hein, mais comment est né le désir. Alors après, si, il y avait quand même... Je voulais absolument pas... Je voulais que ça soit un livre sur l'espoir et pas du tout un livre sur le désespoir. C'était ça qui était très important dans l'écriture.
Je voulais que ça soit... Et ça, on le sent bien dans le roman.
Oui, mais c'était très important. Quand j'ai écrit Les Enfants de la Liberté, finalement, ce que j'ai pas... Enfin, même si dans Les Enfants de la Liberté... la souffrance et la douleur sont omniprésentes, elles ne sont jamais mises en avant sous la forme d'une victimisation. En fait, ce qui est toujours mis en avant, c'est quelque part le joyeux courage, vous voyez, de ces adolescents résistants et leur détermination à ne jamais baisser les bras et leur imagination et leur travail de... Et c'est ça, finalement, qui, je crois... transmet cette envie de résister. Parce que la résistance, hein, la première des résistances, c'est de résister à la peur. Vous savez, moi, une des questions qui a hanté mon enfance, hein, mes grands-parents étaient pris pendant la grande rafle du Veldiv, et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi les gens étaient restés derrière leurs portes chez eux. C'est assez incroyable, vous voyez. Vous êtes plein de voisins dans un immeuble, et tout à coup, il y a deux policiers qui viennent chercher des gamins, et on sait où ils vont. Et chacun reste chez soi, alors que finalement, si tout le monde était sorti de l'immeuble et avait foutu les policiers dehors, la grande rave du Veldiv n'aurait pas eu lieu, s'il y avait une manifestation populaire. Et en fait, c'est à chaque fois, c'est la peur, c'est-à-dire qu'on reste chez soi parce qu'on a peur. Donc la première des résistances, je crois, c'est de résister soi-même à la peur. C'est enfin, moins grandiloquent et tout aussi dramatique, mais c'est dans les transports en commun, vous voyez, quelqu'un se fait agresser. Et l'agresseur paraît être une brute, hein, mais il y a 20 personnes dans le bus, et les 20 personnes, elles sont plus costauds que la brute. Mais alors, vous voyez, on reste dans son livre en faisant comme si on ne voyait pas l'agression, ou tout à coup, il y en a un qui se lève et qui va entraîner les autres.
Alors Marc, je reprends un peu le micro, parce que sinon vous allez tout vous raconter, alors j'ai plein de questions à vous poser. Vous dénoncez les agissements des hommes de Wagner à travers le personnage de Yakov. Vous avez cette phrase terrible, les hommes de Wagner aiment tuer, ils aiment tellement cela qu'ils en ont fait une profession. Et puis plus loin, au sujet des Russes, vous écrivez, ils ne cherchent pas seulement à conquérir notre pays, mais à les faire disparaître. Poutine réécrit l'histoire pour que le peuple adhère à sa croisade. J'ai eu le sentiment tout du long, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman, de lire un roman emporté par le besoin de dénoncer ce qui se passe en Ukraine, on l'a dit, autour de l'enlèvement à grande échelle des enfants, qui sont utilisés comme une arme de guerre. Je me suis demandé, Marc, mais répondez pas trop longuement, parce que j'ai 5 pages de questions, si ce roman, au fond, c'était pas de tout votre roman le plus engagé, ou en tout cas, est-ce que vous aviez conscience de vous engager quand vous écriviez ce roman ?
Oui.
Ah, ça c'est bien, c'est court. Alors, ça c'est bien Marc, comme ça on aura bien du temps, je suis contente. Vous avez placé une note à la fin du livre, j'aimerais beaucoup que vous la lisiez si vous êtes d'accord grâce au livre de Madame, merci Madame, parce que je trouve que c'est important Marc, tout au fond du livre, tout au bout du livre, une note qui parle de la Cour pénale internationale.
Ah ben non.
On le dit pas ?
Ah ben non.
Bon, en tout cas...
Hop, on a gagné une question.
En tout cas, ce que je trouve important, c'est que d'habitude, dans les romans, l'auteur tient à rappeler que toute vraisemblance avec des faits réels serait fortuite. Et là, quand même, l'essentiel, c'est de dire que vous partez de faits réels, et ça, c'était important.
Absolument.
C'est bien, ça devient drôle, Marc. Alors, après, vous aurez le droit de répondre un peu plus longuement, parce que du coup, Véronica travaille à l'hôpital, sans moyens. Sans appareil d'échographie, c'est impossible de soigner tous les blessés et les malades. Nous devons faire des choix, dit-elle. Et ça, c'est terrible. J'ai eu le sentiment que la rage a fleuri souvent entre les lignes, comme dans ce passage que j'aime beaucoup. Donc je le lis, si vous êtes d'accord. L'infirmière en chef a contredit son patron pour oublier la sauvagerie des hommes, ne pas penser qu'il a suffi de 3 secondes, le temps d'une rafale et d'un instant de haine, pour détruire une famille, quand dans cette salle, on passera des heures à tenter de réparer les dégâts pour sauver de vies. Et s'ils échouent, il lui reviendra d'annoncer à une épouse et une mère qu'un fils et un mari ne rentreront plus à la maison. Avez-vous écrit, Marc, ce roman à fleur de colère? Là, vous pouvez répondre assez longuement.
Non. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par fleur de colère, parce que c'est un bel oxymore, mais non, j'ai écrit ce roman... J'ai écrit ce roman pour raconter la vérité, en fait. J'ai écrit ce roman parce que l'information nous livre des faits, mais sans humanité, sans récit. Les photos nous choquent, elles provoquent la colère, mais elles ne provoquent pas l'empathie. Et finalement, la seule chose qui permettra de sauver la démocratie, c'est le fait de justement d'être engagé, vous voyez, dans des choses plus importantes que l'immédiat. Comment vous dire, entre 1930 et 1939, des tas de bonnes gens n'ont pas voulu y croire. Ils sont restés ancrés dans leur quotidien. Et quand Hitler envahit l'Autriche, des tas de bonnes gens ont écouté Chamberlain et Daladier qui disaient non, il n'ira pas plus loin. Puis de toute façon, on ne peut pas lui reprocher vraiment d'avoir envahi l'Autriche. Il se sentait menacé par nous, par l'Europe. Et puis l'Autriche, ça revenait de facto à l'Allemagne. Ça n'avait jamais existé. Et il y a plein de gens qui ont écouté ces sornettes. Et ça a fait 60 millions de morts. Donc moi, quand j'ai commencé à écrire la trilogie des Neufs, il m'a suffi de 4 mois d'enquête de comprendre pourquoi Poutine avait... permis à Bachar el-Assad de massacrer sa population, pourquoi l'armée russe avait massacré les populations civiles syriennes, pourquoi la Russie s'était ingérée dans les élections américaines, puis dans le vote du Brexit, avec succès. Brexit qu'aujourd'hui 70% d'Anglais regrettent en disant c'est la plus grande catastrophe qui nous soit arrivée. Mais Poutine a gagné, parce que c'est ce qu'il voulait, affaiblir l'Angleterre, diviser l'Europe. Pourquoi aujourd'hui on découvre que les étoiles de David peintes en bleu sur les murs de France sont des étoiles de David peintes par des Moldaves payées par Poutine, pour que nous les détestions les uns et les autres. Et donc, à tous les spécialistes qui sont devenus spécialistes dans l'ascenseur et qui montent sur les plateaux de télé pour parler d'autre chose que de l'urgence, moi j'ai eu envie d'écrire un livre pour dire, voilà, il y a une réalité aujourd'hui, il y a un pays... à l'est de l'Europe, qui a commencé une invasion en tentant d'éradiquer un pays de la carte. Et puis de ce pays, il continuera sa marche jusqu'à ce qu'il arrive à Brest. Pas à Brest en Ukraine, à Brest chez nous. Et il y avait des gens comme moi qui essayaient de le dire entre 30 et 39 et personne ne voulait les entendre. On leur disait « Mais arrêtez, vous nous faites chier, la purée refroidie. » Et donc j'ai juste eu envie d'écrire ce livre parce que parfois, quand on lit le destin, parce que si le livre d'Anne Frank avait été un livre d'anticipation et qu'on l'avait lu avant qu'Anne Frank ne soit assassinée, peut-être qu'un certain nombre d'Allemands n'auraient pas cédé aux sirènes du nazisme, mais peut-être qu'un plus grand nombre d'Européens auraient dit « Oula, non, attendez, on ne peut pas, il faut absolument... » Donc voilà, j'ai juste écrit ce livre... pas du tout pour faire peur, mais pour dire que si on ne résistait pas maintenant, il sera beaucoup plus difficile de résister plus tard. Et j'ai raconté le quotidien de ceux qui résistent maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens, 8 jours avant le début de la guerre, qui étaient convaincus que Poutine n'oserait jamais.
Bien sûr. Alors vous avez travaillé en vous basant sur une carte détaillée de l'Ukraine, mais aussi en vous appuyant, comme d'habitude, puisque comme vous lisez Marc depuis longtemps, vous le savez, sur des articles de presse, vous citez à la fin, Marc, de nombreuses références bibliographiques. Mais pas de journaux français. Pourquoi est-ce que vous vous êtes basé exclusivement sur la presse américaine, The Washington Post, The New York Times, CNN ou encore The Guardian? Je me suis demandé si c'était par des raisons pratiques, puisque vous habitez aux États-Unis, vous ne les aviez pas sous la main. En même temps, je me disais bien que sur votre tablette, vous pouviez peut-être avoir les journaux français. Est-ce que c'est parce que vous leur faites plus confiance ou comment vous avez
travaillé? Non, c'est parce qu'il n'y en avait pas.
Ah, voilà. C'était une raison pratique alors.
Oui, c'est parce qu'il n'y avait pas d'article dans la presse française sur ce sujet-là.
J'aimerais que vous nous expliquiez, Marc, quels enjeux, quelles questions et peut-être quelles difficultés cela pose de travailler avec l'actualité. Je me suis dit ça. Prendre le présent pour matière romanesque, travailler à partir d'événements qui s'écrivent encore chaque jour, comme c'est le cas avec l'Ukraine. Est-ce que cela vous a paru plus compliqué, plus intimidant, peut-être plus risqué, peut-être aussi plus intéressant, je ne sais pas, que lorsque vous parliez d'événements passés, comme lors de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance avec les Enfants de la Liberté. C'est particulier quand même sur un présent.
Non, le travail est à peu près le même. Alors la différence, c'est quand vous écrivez sur le passé, la documentation va jusqu'au bout, par définition. Alors que quand vous écrivez sur le présent, comme disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles à faire, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc, mais le travail, la rigueur sont les mêmes, puisque il faut coller à la réalité des faits, ce qui est toujours très difficile, enfin ce qui est toujours pas difficile, mais ce qui est sensible, c'est justement l'incarnation des personnages qui traversent ces histoires. C'est là la vraie différence entre le roman et l'actualité. L'actualité vous dit il y a 2000 morts. Et 2000 morts, on se dit, ah tiens, c'est beaucoup. Mais finalement, on s'habitue. Il y a une information qui est passée complètement à l'as la semaine dernière. Les djihadistes ont massacré au Soudan 875 femmes et enfants en une après-midi. Personne n'en a entendu parler, vous voyez. Et si je vous le dis, on n'arrive pas bien à figurer, vous voyez, 875 femmes et enfants, ouais.
Tandis que si vous nous parlez d'une seule de ces femmes et d'un seul de ces enfants...
Mais voilà, si vous racontez la tragédie d'un de ces enfants, vous ne pouvez plus oublier ce qui s'est passé au Soudan il y a quelques jours. Donc le travail, c'est de donner vie aux personnages. Et quand il s'agit d'une fiction... Il y a une grande liberté. Quand il s'agit d'une histoire vraie, il faut coller à la vérité des personnages, parce que sinon, il y aura une forme de trahison.
Oui.
Donc, dans l'absolu, je vous dirais que j'étais plus libre avec Véronica, qui est inspirée de tas de femmes, mais qui n'existe pas en tant que personnage réel, que je ne l'étais, par exemple, avec Damira dans Les Enfants de la Liberté,
dont
j'ai reçu une lettre... quand le roman a été publié, oui. Donc, voilà.
Alors, les enfants ne sont pas seulement les victimes d'un conflit où l'on ne précise pas de quoi on a peur. Ça, je trouve ça très beau, car on a peur tout court, et c'est terrible. C'est ce que dit Lilia. Ce sont eux, les enfants...
J'en prie.
De toute façon, rien ne vous. Ce sont eux, les enfants, qui sont les héros de votre roman. Merci, Marc. Il ne manque ni d'ingéniosité, ni d'audace, ni d'imagination. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve aussi intelligent qu'attachant, et je suis sûre que si vous avez lu le livre de Marc, vous serez d'accord avec moi, c'est Valentin. Valentin, il a 9 ans, lorsqu'il disparaît un matin, enlevé à l'école, dans des circonstances terribles. Et comme dit joliment sa sœur, il est différent, Valentin. Vous l'avez doté d'un handicap peu commun, il ne parle pas. Alors pour communiquer avec son entourage, il est obligé d'écrire ce qu'il veut dire sur son carnet de locution. Ce qui complique sa vie autant que l'intrigue. Et c'est là où c'est super. Est-ce que ce handicap s'avère très fécond, Marc, d'un point de vue romanesque, je trouve, parce que dans le noir, je vais sûrement pas divulgacher, je comptais pas sur moi, je ne divulgacherai jamais rien. Mais ce garçonnet, comme il est vraiment muet dans le noir. Si bien que tout est compliqué et tout est merveilleux dans l'intrigue à partir de ce handicap, comment vous êtes venu cette idée, Marc, qui est terrible dans tous les sens du terme?
Je ne sais pas si c'est un handicap de ne pas parler en ce qui le concerne, et particulièrement dans la situation dans laquelle il se trouve. Alors comment m'est venue l'idée? Elle m'est venue l'idée parce qu'en fait il est à l'image de son pays, c'est-à-dire qu'il voit tout, il entend tout, il subit tout, mais il a beaucoup de mal à s'exprimer. Ou tout du moins il s'exprime en silence puisque personne ne l'entend comme on entend nous finalement quand à peine l'Ukraine. Il est né aussi dans mon enfance, parce que j'étais pas atteint du mutisme sélectif de l'enfance, mais je parlais pas. Et
vous parliez pas, je savais pas. Ça.
Non, enfin je parlais très peu, mais ça s'est poursuivi maintenant toujours. Je parle très peu.
Mais là, merci aujourd'hui de me parler. Hein.
Mais là, je suis vraiment au max. Mais c'est un reproche que, enfin, ma famille et mes amis m'ont toujours fait, quoi. C'est de parler très peu. Mais parce que j'aime mieux écouter et regarder, c'est comme ça. Et je parle beaucoup dans le travail, mais dans le privé, j'aime pas ça. Enfin, j'aime mieux écouter. Et Valentin, il est en observation et... Comment vous dire ? En fait, sa pensée, il aime mieux la formuler à l'écrit qu'à l'oral. Et moi aussi.
Il vous ressemble un peu, peut-être, si ça se trouve.
C'est possible. Et en même temps, ce qui est surtout important chez Valentin, dans ce personnage, c'est que... je vous parlais tout à l'heure de résister à la peur. Et en fait, Valentin, il est kidnappé et on l'emmène dans un pensionnat. Et c'est un petit garçon qui ne va jamais céder à la peur. En fait, il va rêver, il va vouloir s'évader tout le temps. Et en fait, il est, au lieu d'être prisonnier de ce pensionnat, il se promène librement dans les champs de son imaginaire. Et il a une imagination incroyable. Et donc, il n'arrête pas d'imaginer des moyens de s'évader. Et c'est ça qui non seulement lui permet de tenir, mais lui permet de tenir debout. Et donc, il imagine sans arrêt des plans pour s'évader. Il est en observation et il est d'une ingéniosité assez joyeuse, en fait. Parce que ce n'est pas du tout une écriture triste. Je n'ai absolument pas voulu que ce roman soit triste.
Bien sûr.
C'est un roman, en fait, où on suit ces trois courages. Véronica, cette maman infirmière qui va remuer ciel et terre pour retrouver son petit garçon. Lilia, cette adolescente de 14 ans. Bon, qui est en pleine crise d'adolescence et oui, dont le monde tournait autour d'elle jusqu'au moment où on a enlevé son frère et elle va se servir de toutes les colères de l'adolescence pour aller le chercher, mais surtout l'histoire de ce petit garçon de Valentin qui est le prisonnier de Tsing Tsing, vous voyez, et qui est plus fort que ses geôliers et qui a une imagination dingue et qui va réussir en fait à manipuler son entourage et à obtenir ce qu'il veut. Voilà, c'est ces trois forces qui, par amour, convergent, qui vont tout faire pour se retrouver, alors que les forces du mal font tout leur possible pour essayer de les éloigner.
Les neuf font leur grand retour dans ce roman. On aime ces Robin des Bois 2.0 parce qu'ils font tout ce qu'ils font depuis le début, depuis qu'ils sont hors la loi, est toujours justifié. Il y a une courte biographie à la fin du livre qui présente Maya, Yanis, Vital et Malik, Cordelia et Diego et Catherine, Matteo et Noah. Vous rappelez leur identité, Marc, les liens qui les unissent, ainsi que leur fait d'armes dans C'est arrivé la nuit, Le crépuscule des fauves et Noah. Je précise que la symphonie des monstres peut tout à fait se lire sans que nous ayons lu les trois tomes précédents, même si en fait nous les avons tous lus. On est d'accord avec ça, Marc. Mais je suis sûre que si nous demandions... En fait, j'aime bien faire un petit test. Je me suis dit que j'allais vous demander si vous aviez déjà lu... au moins un des tomes de la série des neufs, de lever la main, et je m'étais dit que je suis sûre que nous verrions une forêt de bras se lever. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on le fasse ?
C'est risqué parce que...
Si ? Voilà. Si. Donc on peut tout à fait le lire quand même. Mais vous mentionnez les neufs discrètement au début du livre, Marc, avec cette phrase en italique « Tout avait commencé bien avant le 24 février, les neufs ». Mais ils n'apparaissent pas sur la couverture. C'est une question peut-être très simple, mais je me suis demandé pourquoi.
Parce que ce ne sont pas eux les protagonistes, les héros de l'histoire. Donc,
ils n'allaient pas voler la vedette à Véronica.
Non, mais parce que, très honnêtement, si ça avait été d'autres personnages qui assurent leur fonction, l'histoire n'aurait pas fondamentalement changé. Alors que si c'était pas Véronica, vous voyez, quand vous construisez une histoire, vous avez l'histoire principale et puis vous avez ensuite des personnages secondaires qui viennent nourrir cette histoire. Alors, imaginez par exemple que dans une intrigue de, imaginez que dans un James Bond, vous voyez, les deux auteurs se soient amusés à croiser des univers et que tout à coup, OSS 117 vienne donner un coup de main à James Bond. Si c'est l'histoire de James Bond, finalement, si au lieu que ça soit OSS 117, c'était Arsène Lupin, ça ne changerait rien à l'histoire, vous voyez. C'est clair ce que je dis oui.
Très clair.
Donc là, les neufs entrent à un moment donné de l'histoire et vont faire avancer l'histoire, mais j'aurais pu les remplacer par d'autres personnages. Alors que quand j'ai écrit les romans de la trilogie, les principaux personnages, ce sont les neufs. Donc là, vous ne pouvez pas... Donc voilà pourquoi ils ne sont pas sur la couverture et pourquoi ce roman est un roman totalement... ceux qui ont aimé la trilogie seront contents de retrouver les personnages, comme moi j'ai été content de les retrouver. Mais ceux
aussi.
Qui n'ont pas lu la trilogie n'ont absolument pas besoin de la lire et ils vont rencontrer ces personnages. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les représente rapidement dans le roman, avec la quantité d'informations dont on a besoin pour les suivre et pas plus.
Ils font des prouesses technologiques, les neufs, puisque ce sont des hackers, à l'image de Vital, qui a rejoint les rangs de l'armée numérique des soldats invisibles, qui ont pour arme les claviers. Mais vous utilisez aussi, Marc, ça c'est un aspect du roman que j'ai adoré, un vieil appareil qui semble désuet, mais qui s'avère redoutable, et sur lequel vous faites habilement reposer l'intrigue, c'est le pager. Alors, on ne va rien divulgâcher, mais j'avais envie que vous nous expliquiez en quoi consiste cet appareil et pourquoi il vous a semblé si intéressant d'un point de vue romanesque, alors qu'il peut paraître un petit peu vieillot.
Ben, vous savez, les pagers, enfin, je regardais l'âge moyen dans la salle. Vous savez, les pagers, c'est des petits appareils. On en voit toujours quand vous allez à l'hôpital ou à la clinique. C'est des petits bips, vous savez, que les infirmiers ont à la ceinture. Et moi, dans ma jeunesse, c'était l'ancêtre du téléphone portable, le pager. On avait, ça coûtait rien. On avait, et beaucoup de gens avaient ça. C'était très répandu aux États-Unis, un petit peu moins. Enfin, en Europe, c'était un peu plus réservé. On avait ça dans les sociétés, on avait ça dans les restaurants. Donc, c'est des petits pagers sur lesquels il y avait, sur les premiers, il n'y avait que les 9 chiffres. Et qui apparaissait et quand on, par exemple, quand on appelait un pager, le numéro de téléphone s'affichait, donc la personne savait qu'il fallait qu'elle rappelle d'une cabine téléphonique.
Autre mot.
Ouais. Les pagers, c'était extrêmement pratique parce que ça marchait partout et il fallait pas les rebooter, il fallait pas les updater. C'est un truc simple qui marchait. Et puis évidemment, c'est tombé en désuétude avec l'arrivée des téléphones portables et des SMS, etc. Et puis au moment des attentats de Londres, heureusement les services de sécurité et les services hospitaliers avaient gardé les pagers parce que c'est au moins c'était un petit appareil facile à porter à la ceinture qui se décharge pas dans lequel on pouvait envoyer des petits codes très rapides qui indiquaient le degré d'urgence, l'endroit où il fallait se rendre, etc. Et beaucoup de services d'urgence et hospitaliers avaient gardé ces choses-là. Et au moment des attentats de Londres, très très vite, les services de sécurité anglais ont compris que les bombes étaient déclenchées par téléphone portable et craignant, après l'explosion du troisième bus, que d'autres bombes soient déclenchées, ils ont fait tomber tous les réseaux de téléphone. Donc il n'y avait plus de réseau cellulaire sur Londres. Et d'ailleurs maintenant... toutes les grandes villes et tous les aéroports sont équipés de façon à pouvoir interrompre toutes les liaisons cellulaires à tout moment et sur une couverture très vaste pour empêcher le déclenchement d'explosifs à l'aide de téléphones. Sauf qu'au moment des attentats de Londres, quand ils ont coupé tous les téléphones, ça a posé pas mal de problèmes dans la régulation des secours. Et les pompiers ont réussi à s'en sortir parce que les pompiers avaient toujours des bips. Mais ils avaient beaucoup de mal à communiquer avec la police qui n'en avait pas. Et donc ça a servi de leçon à toutes les grandes villes du monde. Et donc on a remis au goût du jour les pagers. Et tous les services de sécurité dans toutes les villes, maintenant, sont équipés de pagers de façon à ce qu'on puisse... Et puis les pagers ont continué. Et moi, j'ai toujours, comme je suis un petit peu passionné de technologie, puis après avoir écrit notamment la trilogie des neufs, donc les pagers, je m'en souvenais. Et ce qui était génial dans ma jeunesse, c'est que... Nous, les jeunes, on avait des pagers parce que ça coûtait pas cher du tout. Et surtout, s'il y avait un truc génial, c'est que dans les pagers, il y avait une table de code et que nos parents ne pouvaient absolument pas comprendre ce qu'on s'écrivait.
Alors, attendez, j'attends. N'avancez pas trop. Justement, nous y sommes. Si on ne peut pas comprendre ce qu'on s'écrit, Marc, il y a une table de matière qui figure à la fin de l'ouvrage et qui vous permettra, mesdames et messieurs, de pratiquer les joies du codage, si le cœur vous en dit. Certains personnages que je ne nommerai pas, Marc, se disent « je t'aime » en codant. J'ai trouvé ça trop beau.
Donc moi, quand j'étais jeune, on faisait ça comme ça.
Mais c'est tellement romantique.
Il y avait des codes pour sortir de chez soi, il y avait des codes pour se donner rendez-vous, il y avait des codes pour dire « je t'aime ».
Donc moi, j'ai appris grâce à vous, Marc, au détour d'un merveilleux passage que « je t'aime », ça s'écrit 143.
Oui.
Et donc, si vous recevez ces trois chiffres, mesdames et messieurs, bah, vous saurez que votre amoureux ou votre amoureuse lit Marc Lévy comme vous.
Non, mais ça, non, attends.
Non, j'adore.
C'est pas moi qui invente.
Je sais que c'est pas vous, mais quand même, on est tous sur les pages.
Non, mais 143, c'est parce que en anglais, c'est 143, I love you ?
Oui.
Parce qu'en fait, je sais pas. Alors, c'était I love you. J'ai oublié pourquoi d'ailleurs. Parce que normalement, c'était le numéro de la lettre de l'alphabet.
Oui, mais le I, ça marche pas. Bon, on s'en fout, c'est tellement romantique. Donc si vous recevez 143, vous aurez compris que la personne, au-delà de vous dire qu'il l'aime, en plus a très bon goût puisqu'il lit Marc Lévy. Bon, ma question Marc vient. Vous parvenez à poétiser la technique. Est-ce que vous aviez à cœur d'importer le langage du code au cœur d'un roman et de tisser des histoires d'amour sous les décombres de la guerre ?
Joli jeu de mots avec à cœur.
Merci.
Est-ce que j'avais à cœur, pardon, du coup je suis pas
en, voilà, en tout cas ce que je voudrais dire et qu'on comprenne, c'est que on a parlé tout à l'heure de l'Ukraine, on a compris, voilà, c'est aussi ce qui fait, je trouve, la beauté de ce roman, c'est qu'il soit engagé, c'est qu'il soit dans l'actualité, et en même temps bien sûr vous nous parlez d'amour. Est-ce que vous aviez à cœur de tisser l'amour dans la guerre?
Mais c'est pas, enfin pour moi c'est c'est un roman d'amour et de liberté. C'est pas du tout un roman sur la guerre.
Mais je sais bien. Mais donc, je trouve que c'est important qu'on le sache pour celles et ceux qui n'ont pas lu.
Ça n'est que ça. C'est l'amour d'une mère, c'est l'amour d'une sœur, c'est l'amour d'un enfant. C'est l'amour de tous les gens qui les entourent et qui vont leur porter assistance. C'est l'amour de Danilo, qui est un personnage que j'adore, qui est totalement barré, oui, qui a un tic de langage et qui va faire des trucs dingues pour essayer d'aider... Véronica, c'est l'amour de ce chirurgien, c'est un roman d'amour et de liberté, c'est pas du tout un roman de guerre.
Non.
Et c'est pas du tout un roman sur la guerre, c'est vraiment un roman sur le courage, sur l'espoir, sur la liberté et sur le pouvoir de l'imagination.
Et ce livre que vous dédiez à votre mère, Marc, c'est aussi un roman sur les relations compliquées, vous en avez parlé tout à l'heure rapidement, entre une mère et sa fille qui ne se parlent plus vraiment. Il y a un passage que j'aimerais lire, page 37, je trouve qu'il est très beau. Lilia éclate en sanglots, Véronica la regarde, elle ne laissera pas la peur l'emporter. Il faut agir, car même dans les pires moments, elle reste une mère qui doit protéger sa fille. Alors elle s'approche de Lilia, s'agenouille et la serre dans ses bras, lui donnant ce qu'il lui reste d'amour, toute cette tendresse qu'elle a retenue, sans savoir pourquoi peut-être, parce que la vie, à force d'épuisement, a fini par l'emmurer. Je me suis demandé si le défi, c'était pas aussi d'écrire sur l'incommunicabilité.
Il y a beaucoup de choses dans le roman sur lesquelles j'ai eu envie d'écrire, mais c'est un roman sur la relation entre sa mère et sa fille. Au moment où sa fille entre dans l'adolescence, c'est un roman sur... Véronica est, je crois, vraiment le personnage principal, parce que c'est une femme, et c'est une femme qui essaye de tout faire, et elle porte tout sur ses épaules, c'est-à-dire qu'elle est une maman, elle est une maman seule, elle est infirmière en chef dans un dispensaire.
Sans moyens.
En temps de guerre. Et c'est une femme qui passe son temps, en fait, à vivre pour les autres et à donner pour les autres, à donner aux autres, sans jamais d'ailleurs le dire qu'elle fait tout ça. Je ne sais même pas si elle s'en rend compte elle-même.
Elle n'a pas le temps de penser à ça, je crois.
Et en fait, c'est une femme qui... C'est une femme qui ne reçoit pas grand-chose.
Non.
Et à un moment, parce que la vie la projette dans cette situation terrible, elle est mise dans la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'elle va craquer, on la voit, en fait. Alors, je ne sais pas si la démarche était de parler de l'incommunicabilité, c'était plus parler des silences qu'on s'impose à soi-même. Et c'est une femme qui ne dit rien. C'est une femme qui... C'est une femme qui voit sa fille adolescente s'éloigner et la repousser, et finalement qui a une forme de pudeur et qui ne va pas la rechercher, comme si c'était une fatalité. C'est une femme qui se bagarre dans un dispensaire où il n'y a presque plus rien, et elle accepte ça parce que, comme le lui dira son patron chirurgien, qui à un moment de l'histoire... l'aide à ne pas baisser les bras, et lui dit: on ne choisit pas le métier d'infirmière si on accepte la défaite. En fait, c'est une femme qui n'accepte pas la défaite, mais c'est une femme qui a, je crois, qui s'est tellement emmurée qu'elle n'arrive pas à demander de l'aide. Mm,
mm, mm.
Et puis tout à coup, la situation est telle que elle va se retrouver elle-même, parce qu'il y a des gens qui vont lui porter, il y a des gens qui vont l'aider, et alors qu'elle leur a rien demandé. Et c'est une révélation énorme pour elle, parce que. Parce qu'en voyant que des gens l'aident alors qu'elle n'a rien demandé, elle se rend compte qu'elle n'est pas aussi invisible qu'elle l'était.
Bah oui.
Et ça change complètement sa vie de femme, en fait, ce simple détail de se retrouver dans le regard des autres. Et bien sûr, sa relation avec sa fille va énormément... Enfin, en 3 jours, les rapports mère et fille vont complètement changer. Et l'une et l'autre vont finir par se dire probablement ce qu'elles auraient mis des années à se révéler l'une et l'autre.
Votre roman peut se lire comme un manifeste, une ode à la liberté, mais c'est aussi une réflexion sur la monstruosité. J'avais envie que vous nous expliquiez comment vous était venu le titre oxymorique du livre. Je trouve qu'il dit à lui seul la complexité du monde, la symphonie des monstres.
Au début, j'avais un titre qui s'appelait le dictionnaire. Moi, mon titre de travail, c'était le dictionnaire des monstres, mais ça ne plaisait pas du tout à mon éditeur.
Bah, la symphonie des monstres, c'est vraiment mieux.
C'est ça. Mais je n'ai pas dit que mon éditeur ait tort. J'ai dit que ça ne lui plaisait pas du tout.
Et puis, c'est dur de trouver un titre.
Il n'aimait pas le mot dictionnaire. Voilà, quand il trouvait qu'il y avait une dureté dans le dictionnaire. Et puis, en fait, je crois, je ne vous le garantis pas à 100%, mais je crois que c'est en écrivant la scène du concert...
Ah, que ça vous est venu.
Oui, que le personnage dit... raconte au téléphone, c'est une scène un peu d'acteur. Bon, je ne vais pas spoiler.
On n'a pas le temps.
Il y a un concert à un moment donné, et il y a justement Maya, qui est une des 9 qui est là, et qui assiste à cette cérémonie qui est absolument terrifiante. Et pendant cette cérémonie, qui en apparence est, vous voyez, une espèce de fête, c'est une tragédie. Et donc elle dit, mais c'est la symphonie des monstres, et c'est comme ça que le titre... Non, je crois que c'est plus subtil. En écrivant ça, j'ai écrit cette ligne où l'orchestre entame une symphonie et je voyais le personnage de Maya qui écoutait cette symphonie et du coup j'ai relié les deux et j'ai dit mais oui, mais c'est la symphonie des monstres.
Et c'était parfait.
Et du coup j'ai tout de suite appelé mon éditeur.
Qui a dit ah !
J'ai dit mais bravo. Quelle idée géniale.
Vous avez cette phrase, Marc, à propos du majordome, qui est un personnage, je trouve, tout aussi formidable que le pêcheur. Moi, j'aime beaucoup le majordome et le pêcheur. Il décide d'accepter une vérité qui le lavera de toutes les lâchetés, des échecs et des renoncements. Je me suis demandé, Marc, si on pouvait dire que écrire, au fond, c'était peut-être pour... Est-ce que c'est pour vous une manière de rétablir la vérité, de laver les lâchetés et les renoncements ?
Non, non.
Non.
Ah non, non. Non, non, ça n'a rien à voir. La phrase là dont je parle, c'est une phrase qui veut dire qu'il n'est jamais trop tard et que finalement on peut récupérer son étincelle d'humanité même au dernier moment. Donc,
mais est-ce que c'est pas aussi ça, écrire, permettre de retrouver son étincelle d'humanité ?
Ah, moi, je crois que je l'ai jamais perdue.
Ah, ben ça, j'en suis sûre.
Non, non, mais parce qu'il faut l'avoir perdue pour la retrouver. Oui. Donc, non, non, au contraire.
Toujours l'affaire...
Et puis, je ne crois pas du tout que l'écriture soit une façon de se laver de ses lâchetés. Non, non, ça, je ne crois pas que ça concerne du tout le domaine de l'écriture. Le personnage en question, c'est un personnage qui est... C'est un collaborateur silencieux. C'est les gens dont je vous parlais qui sont restés derrière les portes de leur appartement pendant qu'on enlevait des gamins. Ou c'est celui ou celle qui plonge la tête dans son livre quand une femme se fait agresser dans les transports en commun. Et c'est pas parce qu'on est resté 10 fois la tête dans son livre au moment de l'agression que la 11e fois où on se lève, on devient pas quelqu'un de courageux. Donc c'est une phrase qui dit que la peur, c'est pas une fatalité et l'aveuglement... par la peur n'est pas du tout une fatalité et qu'il suffit à un moment donné de se lever pour avoir gagné sur la peur. Et c'est pas donc c'est le personnage dont vous parlez, c'est un personnage qui va se révéler à un moment donné parce que la possibilité lui est donnée et que l'enjeu est plus fort que lui. Tout à coup, il va avoir du courage et il va devenir magnifique.
Ouais.
Et ce qui fait le lave, cet acte de courage va le laver de toutes les lâchetés dans sa vie. Et c'est une rédemption pour lui, mais c'est une rédemption qui s'offre à lui-même. Et il va prendre ce risque. Et je trouve que c'est très important de le raconter parce que quand je vous disais que c'est un livre sur l'espoir, moi c'est marrant, quand j'étudiais la guerre et la résistance, il y avait. Mais même c'est des conversations que j'ai eues avec des résistants. Et très souvent, quand je parlais d'un tel ou d'un tel, vous voyez, un résistant me disait « Oui, enfin, lui, il est devenu résistant après le 6 juin 1944. » Et je disais « Oui, mais c'est peut-être mieux que de ne pas l'avoir été du tout, quand même. »
Tant qu'à faire.
Alors, il disait « Oui, c'est vrai, quand même. » Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont devenus résistants au moment de la libération de Paris, mais ils y sont quand même allés. voyez, il pouvait encore prendre une balle. Donc, et c'est finalement, si on ne tend pas la main à ces gens-là en disant que vous avez fait le bon choix à la fin, à ce moment-là, vous voyez, autant dire, tu resteras un salaud toute ta vie. Donc, et c'est exactement le cas de ce personnage. Il a collaboré au régime. En occupant sa vie de façon à ne pas avoir à se regarder dans le miroir, et puis à un moment donné, l'éclairage est trop fort et il décide que ça, c'est plus possible, quoi.
Alors le temps file, parce que je suis aussi la police du temps. Hélas.
Parce qu'en fait, vos questions sont super longues.
C'est ça. Pardon, mais c'est aussi pour donner envie de lire votre livre, Marc.
Non, je rigole. C'est parce que vous m'avez dit que mes réponses étaient longues.
Bon, avant que vous ne courriez vous faire dédicacer le roman de Marc Lévy sur le stand de son éditeur Robert Laffont, j'aimerais lire cette question que pose la Symphonie des Monstres. Mais combien de temps peut-on rester triste à crever, sans prendre les choses en main ? À quel moment devient-on complice du malheur si on ne fait rien pour qu'il cesse ? Je trouve qu'elle est terrible, cette question, Marc, et qu'elle est sans doute insoluble. Mais cela posé permettra de prendre les choses en main. Alors posons-la nous, mesdames et messieurs, cette question, et peut-être que le monde ira mieux. Un grand merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
Et merci. Merci.